Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Rassette, c'est l'heure d'Accès libre. Après 10 ans à la tête de l'institution, la protectrice du citoyen Raymonde de Saint-Germain dépose son dernier rapport et demande, de manière très mesurée, que le gouvernement fasse marche arrière en santé. Elle sera avec nous en fin d'émission. Pouvez-vous imaginer qu'encore aujourd'hui, des cliniques et des hôpitaux, y compris des nouveaux, ne sont pas accessibles pour les personnes en situation de handicap? Heureusement, Linda Gauthier du Raplic en fait un dossier personnel et elle sera avec nous pour en parler. C'est aussi aujourd'hui qu'on s'entretient avec notre toute nouvelle chroniqueuse philanthropie, Jacinthe Roy, qui est directrice de la PGP. Et pendant le mois d'octobre, 2 événements importants. Donc d'abord, le mois du nanisme au Québec avec Karine Villeneuve, qui est directrice générale de l'Association des personnes de petite taille du Québec. On va regarder ensemble comment il est possible de poser un regard sur cette centaine de maladies rares. Et c'est le mois des bibliothèques accessibles à Montréal. Et pour illustrer ces heureuses activités, on reçoit Lucila Guerrero, qui présente son projet artistique en tant qu'artiste, auteur autiste, pour parler d'amour. Dans un instant sur Canal M. Octobre, mois de l'accessibilité dans les bibliothèques à Montréal. On y présente plusieurs activités, mais on avait envie de vous présenter un formidable parcours, un projet artistique qui va peut-être nous faire réfléchir sur la neurodiversité. Et d'ailleurs, on retient le terme, on en parlera plus tard, on s'entretient avec Lucila Guerrero, artiste en art visuel, photographe, puisqu'elle est armée de tout un très important appareil photo sur la table, et auteur autiste. Bonjour Lucila.
Bonjour.
Merci d'être ici.
Merci. Merci à vous de m'inviter.
Ben, c'est un plaisir, en fait, vous proposer une exposition photographique qui s'intitule « Aimer dans l'imbroglio ». À quoi on peut s'attendre comme exposition?
Et c'est une exposition et un projet qui explore l'amour dans toutes les variations et manifestations chez les personnes autistes. Mm-hmm. Et cette idée est née depuis longtemps. J'étais toujours intriguée à la nature de l'être humain et à comprendre comment fonctionne l'être humain. Depuis mon adolescence, quand j'ai remarqué que j'étais différente par rapport aux autres personnes, et je disais que j'étais la fille qui aimait en flou.
Qui aimait en flou?
Oui, c'est ça. Parce que pour moi, l'autre personne, c'était en flou. C'était pas clair. Et c'était pas clair pour moi ce que mes paroles ou mes actions pourraient éveiller comme émotion chez l'autre personne. Ah. Et alors, c'est dans mon quotidien jusqu'à date. Non? C'est comme ça que je le vis.
C'est la première inspiration de cette... exposition-là. On rappelle d'ailleurs que cette exposition va être présentée du 4 octobre au 3 novembre. Donc, c'est important que les gens aillent voir. C'est à la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire sur le boulevard Roland à Montréal. Mais donc, est-ce que c'est cette émotion-là que vous avez connue adolescente, cet amour flou qui aurait donné naissance à ce projet artistique?
Oui, un peu ça. Et ensuite, quand j'ai appris que je suis autiste, je suis allée chercher de l'information, beaucoup. Et j'ai trouvé qu'avant, il y avait des idées qui étaient inexactes sur nous. Mm-hmm. On disait avant que la personne autiste refuse de l'affection, que la personne autiste veut être isolée. On sait que c'est faux maintenant, mais il y a encore ces idées qui restent. Il y a comme des traces de ces idées qui restent.
C'est vrai que c'est persistant, tout le monde admet ça d'emblée, mais il faut rappeler aussi qu'il y a, il y a tout un spectre à l'autisme. Hein? On oublie ça souvent.
Oui.
Et donc, vous aimez qu'on vous serre?
Oh. Oui. Ah oui, moi j'aime beaucoup être entourée des gens. Oui. Dans certains contextes, c'est moins quand c'est bruyant ou quand le contexte est trop vague, mais j'aime beaucoup les gens. Et j'aime beaucoup savoir que je suis appréciée. Ouais. J'ai besoin d'être aimée. Et aussi, je suis capable d'aimer profondément. Et je peux m'engager dans une relation aussi, non?
Ben voilà. Alors, quand on est entouré, on veut aussi ces manifestations qui nous sécurisent sur le fait qu'on est avec les autres, qu'on est bien. C'est valable pour vous aussi.
Oui, c'est ça.
Donc, vous proposez aussi une conférence, on va en parler après, mais parlons du projet photographique parce que vous ne l'avez pas fait seul. Vous avez recruté 30 participants qui sont aussi autistes pour parler d'amour.
Oui.
Est-ce que ça a été difficile?
Non. Et j'avais déjà travaillé dans d'autres projets avec des personnes autistes. Et je suis aussi un peu connue avec les organismes. Et j'ai lancé un appel sur Internet pour les personnes qui voudraient participer pour réfléchir sur l'amour, sur le thème de l'amour. Ça pourrait être l'amour de soi, l'amour de famille, l'amour de couple, d'amitié, ou c'était ouvert à n'importe quelle proposition.
Okay.
Et c'est comme ça que j'ai rencontré les participants, des fois seul ou avec la famille, et j'essayais de garder le plus d'authenticité. Et j'essayais de t'ignorer par les participants. Il n'y a aucune mise en scène, il n'y a aucun arrangement. J'essayais de capter tout le naturel possible.
Ah ouais. Mais donc, à quoi on doit s'attendre? Est-ce que vous faites des portraits avec ces gens?
Ce sont des portraits dans l'interaction ou des fois le portrait de la personne seule. Mm-hmm. Ça pourrait être... Il y a un participant qui m'a parlé de l'amour à la vie, en général, à toute forme de vie. Elle aimait beaucoup toucher tout ce qui était vivant, les feuilles, la texture des feuilles, les fleurs. Il y a plein d'histoires.
Donc, chacune de ces personnes porte une histoire sur l'amour.
Oui, chacune porte son histoire unique parce que nous sommes tous uniques. Et il y a des histoires très touchantes. En fait, toutes les histoires sont touchantes. Je revenais à la maison pleine d'émotions après chaque rencontre. Par exemple, une chose que je trouve importante de dire, c'est les parents, parce que je suis aussi maman.
Ouais.
Et parce que on m'a critiqué, on m'a fait des commentaires. Des fois, on se questionne si on serait capable d'être un bon parent. Et je me suis reconnue dans chaque histoire. J'ai rencontré des parents autistes, dont les enfants sont autistes ou non autistes, les deux. Et je me suis reconnue dans cet engagement, dans ce désir d'être un bon parent, d'écouter l'enfant, de donner de son mieux. Mm-hmm. Peut-être comme les parents non autistes, mais à notre façon.
Puis donc, votre lien avec votre enfant qui est aussi autiste Asperger, est-ce que vous l'avez pris en photo? Est-ce que vous avez osé?
Oui. Je ne savais pas très comment aborder l'amour avec lui parce que je le vis dans le quotidien. Mais il rentre dans l'adolescence et il est dans une étape comme se séparer un peu de moi et commencer à chercher des références masculines. Mm-hmm. Il s'approche à son père. Alors, j'ai demandé à lui aussi. Il m'a dit, je voudrais avec mon père. Et j'ai pris une photo de l'interaction avec son père. Et comment il s'approchait, parce qu'il était un peu éloigné quand il était plus petit. Mais maintenant qu'il devient plus grand et tout ça, il partage les sports, par exemple le soccer, il y a des intérêts qu'il partage.
J'avais envie de parler de votre conférence que vous proposez aussi sur votre site Internet, puis même dans ce que vous présentez, vous parlez beaucoup de la neurodiversité. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste en 30 secondes, si c'est possible?
La neurodiversité, c'est un fait, c'est une réalité, parce que nous, les êtres humains, nous avons une structure neurologique unique.
Mm-hmm.
Alors, chaque personne, c'est une réalité, on est différents l'un de l'autre. Ça, c'est la neurodiversité, si c'est pour dire vite.
C'est ce que vous présentez lors de votre conférence, en fait, parce qu'il faut rappeler qu'il sera possible, pas seulement de voir ce que vous avez proposé en photo, mais aussi de vous entendre. La conférence s'intitule « Suivre la lumière, combattre les préjugés face à l'autisme » et ça se tient ce dimanche, le 9 octobre à 13h30, à la bibliothèque de Pierrefonds.
Oui, c'est ça.
Et donc, aussi, vous allez vous parler de votre histoire à ce moment-là.
Oui, de mon parcours et comment c'est l'art mon outil pour parler, pour partager mes idées, mon vécu, ma vision et aussi pour m'engager pour défendre la neurodiversité.
Bon, ben c'est dit. donc, défendre l'amour pour tous, défendre la neurodiversité, c'est un peu vos combats. Alors, je rappelle que pour visiter l'exposition dans le cadre des semaines, ou plutôt du mois, sur l'accessibilité des bibliothèques, Donc, pour visiter l'exposition « Aimer dans l'imbroglio », c'est du 4 octobre au 3 novembre prochain qu'on peut voir, qu'on peut le faire. Et on se rend pour ça à la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire au 12002 boulevard Roland à Montréal.
Ouais.
Merci beaucoup, Lucila Guerrero.
Merci beaucoup aussi.
Alors qu'on s'inquiète de la situation des services sociaux et de santé, et avouons-le qu'on a peu d'espoir de gain dans l'amélioration des services à court terme, il faut quand même au minimum se préoccuper de l'accessibilité physique ou architecturale des hôpitaux et des cliniques. Alors, on peut compter sur Linda Gauthier, présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, afin d'y arriver.
Benoît.
Bonjour Linda, merci d'être là.
Merci à toi.
Alors, comme tu étais en plus une habituée de l'émission Accès libre, on est bien content de se faire baptême, là, de faire baptême avec, avec toi pour cette émission-là.
Mouillez-moi pas trop.
Non!
Pas chaud aujourd'hui.
Non, je promets que ça va bien aller de ce côté-là.
Oui.
Mais repartons de 2014. Oui. En fait, si je comprends bien, vous avez rencontré le docteur Barrette et c'était une question à l'heure du jour.
Oui, effectivement. Ben, c'est ça. C'était dans le cadre, évidemment, des cliniques de mammographie qui en avaient 14 là, au Québec qui avaient refusé les mammographies, en fait, à des femmes qui étaient en fauteuil roulant. Alors, c'est à cette époque-là, le 22 août 2014, qu'on l'avait rencontré. Mais on en avait profité, évidemment, pendant qu'on avait les deux mains dedans pour lui demander d'autres engagements, s'il pouvait prendre d'autres engagements, à savoir les cliniques finalement qui étaient pas accessibles, ben il fallait pas qu'ils ouvrent. Il fallait pas qu'il y ait de nouvelles cliniques privées qui s'ouvrent dans des endroits qui étaient inaccessibles. Et il y avait pratiquement jury sur les évangiles, Benoît, qu'il allait le faire, puis qu'il allait travailler de pair avec, à l'époque, le ministre du Travail, Sam Ahmad.
Oui, qui est responsable du code de construction à l'époque.
Effectivement.
Ouais.
Et il trouvait qu'on avait tellement raison. J'étais accompagnée de Richard Lavigne, justement, puis il trouvait que c'était inacceptable que des cliniques, encore de nos jours, soient ouvertes dans des endroits inaccessibles. Il allait suivre ce dossier-là de très près. Et on a eu de très, très, très mauvaises raisons de croire qu'il se rappelait plus de ça du tout, parce que on a plusieurs exemples qui en a qui se sont ouverts après.
Oui.
Oui.
Donc, dans le fond, non seulement ça n'a pas progressé au niveau de celles qui étaient déjà construites, mais les nouvelles se sont ouvertes sans être accessibles.
Exactement. Et puis, c'est super clinique aussi, là, les 24-7. Là.
Mm-hmm.
On en a un exemple flagrant sur le plateau, mais ils ont une petite rampe.
OK.
C'est ça.
Mais ça respecte le code, ça, Linda?
Bien, moi, ça ne respecte pas le mien.
Voilà. Parce que faut dire que Linda Gauthier a déjà dit que à côté de Dieu, il n'y avait pas le code de construction. Puis il faut rappeler aussi que le code de construction n'inclut pas toutes ces personnes, y compris vous qui nous écoutez, qui êtes aveugles. Est-ce que vous projetez porter plainte en lien avec l'accessibilité des cliniques et des hôpitaux, Linda Gauthier?
C'est déjà fait.
Ah, bon.
Oui.
Et comment vous avez procédé?
Effectivement. Et puis, on met aussi en cause la ville de Montréal, hein, Benoît, parce que il n'y a pas que le ministre Barrette. En fait, il y a la ville de Montréal aussi qui étampe là, des permis allègrement, en fait, puis ils sont bien, bien, bien contents d'avoir des belles cliniques inaccessibles dans la ville de Montréal, nonobstant le fait que ça discrimine un fort pourcentage de la population.
Non, c'est très important. Puis d'ailleurs, il faut rappeler que une clinique, une pharmacie, une épicerie, c'est pas des commerces comme les autres. D'ailleurs, la Commission des droits de la personne l'avait rappelé dans le cadre de son enquête systémique.
C'est ça, c'est de première nécessité.
C'est ça. Comment ça va maintenant? Vous avez porté plainte par la Commission des droits de la personne? Comment
et
vous
oui,
avez procédé?
C'est notre meilleur ami.
Oui. On recevait d'ailleurs la vice-présidente la semaine dernière qui faisait état de quelques gains là, qui avaient été.
Oui, quand même. Ouais. C'est bon. Ben, nous autres, plus ça va, plus nos dossiers prendre de l'ampleur, parce que nous, on prend de l'expérience au fur et à mesure où on avance. Fait que on traite de plus gros dossiers, on se prend des procureurs sur certains dossiers aussi.
Okay.
Et puis, celui-là, ben justement, on va faire une tentative en médiation. Je n'aimerais pas le nom, bien sûr, mais on fait une tentative en médiation le 25.
Donc là, il y a un des acteurs que vous avez poursuivi ou contre qui vous avez porté plainte qui a accepté la médiation.
C'est ça. Exactement. Okay. Ben, c'est la clinique comme telle.
Ah, bien, OK. Donc, il y a une clinique, on la nommera pas, mais c'est une clinique privée.
C'est ça, exactement.
OK.
Et voilà, fait qu'on va voir ce qui se passe avec ça, mais je n'ai pas grand confiance que ça va se régler en médiation, bien sûr. Sinon, si ça se règle au niveau de la clinique comme telle, ben le dossier sera scindé en deux, puis les deux autres mises en cause, Gaëtan Barrette, parce qu'on peut pas mettre un ministère en cause. Demandez-moi pas pourquoi, là, je suis pas trop sûre, mais c'est le ministre Barrette qu'il faut mettre en cause. Et la Ville de Montréal.
Bien, de ce que je comprends, on a un camarade juriste qui vient parfois pour expliquer mieux, mais la Commission des droits de la personne peut faire accepter des plaintes contre les personnes, entre les citoyens, mais pas l'État québécois, si je ne m'abuse.
Voilà. Bon, mais c'est ça. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on nous a suggéré de mettre Gaëtan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, en cause, et la Ville de Montréal.
Bon.
Alors, le dossier sera scindé en deux si ça se règle pas en médiation, bien sûr.
Ben donc, on se reparlera pour les nouvelles, les suites de ces poursuites. Mais avant qu'on se quitte, j'aimerais beaucoup annoncer de nouveau que votre compagnon d'armes,
oui.
Steven Laperrière, lance le 18 octobre prochain le livre « La ville handicapée » aux éditions de la Roupée. Et je pense que vous êtes une inspiration pour ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Je suis fameuse.
Ah, rien de moins!
Rien de moins. Et oui. Mais c'est quand même un roman qui allie réalité et fiction. Alors,
okay.
On invite les gens à venir découvrir, évidemment, ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai.
Vous allez dire ça durant la soirée, là, départir le vrai du faux, c'est ça?
Ben, quand même un peu. Là, on peut donner des petits hints, là, mais pas tout quand même. Là,
okay.
Si les gens, c'est ça. Les gens se feront leur propre idée,
okay.
Tireront leur propre conclusion de tout ça, mais il y a pas mal plus de vrai qu'il y a de faux.
Puis donc, j'ai quand même vu des extraits, là, on avait notre air bon enfant, mais il y a des moments très difficiles dans ce roman-là.
Ah oui, c'est quand même, c'est des coups de poing au ventre, là, je veux dire. C'est, des fois, on ne croirait pas, même moi, à leur lire, là, j'ai trouvé que, on se demande des fois comment on fait pour passer au travers de certaines choses. Même à ça, c'est pas un livre là, qui se veut misérabiliste, absolument pas. Mais c'est pour dédramatiser, en fait, pour monsieur et madame tout le monde, pour qu'ils sachent que c'est quoi un peu le quotidien, de quoi est fait le quotidien d'une personne en situation de handicap. Mais ça peut être comique, puis c'est pas une tragédie non plus,
ouais.
Le handicap. C'est ça. Et pour les personnes en situation de handicap, mais c'est pour leur montrer qu'ils sont pas tout seuls, justement.
Bon.
Ces choses-là, oui.
Alors, vous les ralliez d'ailleurs au lancement qui est prévu le 18 octobre prochain à la fromagerie de Quartier Bleu et Persillé sur l'avenue Mont-Royal.
Ça peut changer d'adresse parce qu'on va être beaucoup trop nombreux.
Ah oui!
Alors, on va vous aviser de ça, mais il y a de fortes chances que ça soit au Resto du Plateau.
Ah bon, mais annonçons-le comme ça, mais j'invite les gens donc à aller visiter le rapplique.org. Donc, vous savez, c'est le site de l'organisme, donc pour plus d'informations sur vos actions, mais aussi sur le lancement, j'imagine.
Absolument. On va mettre ça en ligne ce soir.
Merci beaucoup, Linda Gauthier.
Merci à toi, Dave Benoît. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Cette prochaine chronique s'adresse à vous qui œuvrez dans un organisme ou encore à vous qui donnez pour une cause. Donc, on se promet une rencontre mensuelle avec notre nouvelle chroniqueuse philanthropie, Jacinthe Roy, directrice générale de l'Association des professionnels en gestion philanthropique. Bonjour, Jacinthe.
Bonjour, Benoît.
Merci d'être avec nous, Jacinthe.
Ça me fait très grand plaisir d'être avec vous.
C'est gentil. En fait, on va faire, en commençant, un peu d'histoire du Québec avec toi, donc. Comment tu pourrais nous présenter l'évolution de la philanthropie en terre québécoise?
Oui, mais je pense, Benoît, si vous me permettez, j'apprécierais peut-être présenter un peu la PGP.
Ah, ben, allez-y.
La PGP qui est l'acronyme de l'Association des professionnels en gestion philanthropique. Mm-hmm. Donc, notre association a été fondée en 88, donc on fêtera nos 30 ans en 2018, donc très bientôt.
Félicitations.
La PGP, c'est le plus grand réseau de gestionnaires spécialisés en philanthropie. Donc, nous, on représente des professionnels qui travaillent pour des organismes de bienfaisance, mais aussi pour des OBNL. Il y a une distinction, bien entendu, à faire entre les deux. Mm-hmm. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont régis par l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, et on permet aux organismes de bienfaisance, bien sûr, d'émettre des reçus, ce qui n'est pas le cas des OBNL au grand complet.
Voilà. Donc, il faut dire, au Québec, par exemple, on est à 45 000 organismes. Il y en a quoi? 6 8 000 sans,
Québec,
avec numéro de charité?
En fait, on décompte là, pas loin de 60 000 OBNL.
Ah, OK.
Oui, ça va vite.
Oui.
Et on a entre 14 000 et 15 000 organismes de bienfaisance.
Bon, merci de rectifier mes chiffres, qui dataient de peut-être 10 ans.
Oui, et si on reste dans les chiffres, Benoît, alors la PGP, 350 membres en 2015, mm-hmm. Donc qui représentait 225 organismes de bienfaisance de partout au Québec, de tous les secteurs, dont autant les hôpitaux, les secteurs de l'éducation, les arts, les sports.
Donc, tout va bien, on a un beau portrait de votre organisation. Oui. Et maintenant, c'est qui le donateur ou la donatrice d'aujourd'hui au Québec, Jacinthe?
Oui, bien en fait, le donateur d'aujourd'hui, si vous voulez, bien en fait, on parle beaucoup dernièrement, nous avons parlé des milléniaux, c'est la génération montante qui s'en vient.
Oui.
Les donateurs, en fait, la plus grande tranche de donateurs, ça reste et ce sera les baby boomers.
Oui.
Qui prennent de l'âge, bien entendu, et qui, en fait, on note là, une baisse en termes de dons, et ça peut être associé aussi au fait que les baby-boomers perdent en
pouvoir d'achat.
En présence, la démographie est en train de changer.
Mais c'est pas juste ça, c'est aussi en vieillissant, il est reconnu que les gens disposent d'un revenu un peu moins important. Donc, ça pourrait affecter
aussi
les dons.
Exactement aussi. Mais les professionnels, en fait, c'est notre grand défi là, d'aller chercher ces futurs donateurs-là, en fait, les philanthropes 2.0 qu'on appelle. Là, puis on parle des milléniaux, mais on est même rendu à une autre génération, donc qui est complètement différente de ce qu'auraient pu être les anciens donateurs.
Ouais.
C'est un défi pour comme je disais, pour les professionnels, mais aussi pour tous les organismes de bienfaisance. Là, on parlait, bien entendu, qu'il y avait quelques 14 000 organismes au Québec enregistrés. Au Canada, c'est plus de 86 000.
Mm-hmm.
Donc, il y a un défi grand là pour tous ces gens-là. Et puis, pour les gens pour les organisations, pour ce n'est que d'assurer leur pérennité. Pérennité est assez importante. Et je voulais mettre de l'avant aussi, on parle du donateur, mais aussi tous ces dons-là qui cumulent 11 milliards de dollars par année au Canada, c'est quand même pas rien.
C'est énorme.
La philanthropie, c'est 8% de notre PIB, là, c'est très important. Mm-hmm. C'est un secteur qui concurrence et qui dépasse même celui de la construction et des manufacturiers combinés en termes de PIB. Là. Donc, c'est énorme au Canada et au Québec.
Il y a beaucoup de gens à l'emploi, donc, de ces organismes-là, mais en même temps, ça aide. On considère aussi que ça aide à payer les salaires d'intervenants, de gens qui donnent des services? Est-ce que c'est l'étendue?
Bien entendu, là, parce qu'un organisme de bienfaisance, c'est sûr que nous avons les fondations, puis le plus bel exemple, c'est la fondation d'un hôpital dont le but est d'amasser des dons et de le redonner à des projets spécifiques à l'hôpital en question. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup d'organismes de bienfaisance. Si je pense, un autre bel exemple, c'est le Phare Enfants et Familles, qui est à Montréal, mais qui dessert l'ensemble du Québec, où Il n'y a pas de fondation comme telle. Il y a un petit département de philanthropie, mais tous les dons amassés vont servir à payer l'infirmière, le travailleur social, etc. Donc,
mais c'est important de le mentionner, Jacinthe, parce que, bon, évidemment, on parle aux organismes, mais on parle aussi aux gens qui donnent. Il faut bien distinguer. Il existe la fondation qui, elle, a comme mandat d'amasser de l'argent et donc elle garde un pourcentage le moins élevé possible de dépenses. Et ensuite, il y a à côté un organisme, une cause qui, elle, bénéficie de ses dons et qui généralement reçoit de l'argent de la fondation ou de d'autres fondations ou de groupes ou d'entreprises.
Exactement.
Bon. J'aimerais savoir, est-ce que c'est encore la santé des enfants qui domine là, pour avoir la sympathie des gens pour attirer le plus de dons?
Oui, bien, c'est bien dit. Bien, en fait, le portrait global, si on prend le portrait canadien, bien entendu, c'est bien que les organismes religieux
encore,
ont toujours la cote. Et lorsque j'associais aussi tout à l'heure le fait qu'il y avait un certain déclin du don moyen au Canada lié aussi à la perte de vitesse, si vous voulez, de la génération des baby-boomers, c'est que c'était une génération qui était fortement associée à tout ce qui était leur côté spirituel et religieux.
Okay.
Donc, si le secteur le plus important, outre les universités, bien entendu, et les grands hôpitaux, le secteur le plus important, c'est celui de la religion, bien sûr, si la population qui appuie le plus les églises est de toute
confession, disons.
Et pas seulement catholique, mais toute religion. Bien entendu, là, les églises, c'est un secteur qui va écoper là, avec le déclin de la génération des baby-boomers.
Puis, juste en terminant, on fait vraiment un beau tableau. J'adore ça, faire ça avec vous. Avec toi, pardon. Qu'est-ce qui bénéficie le plus d'entrée en ce moment? C'est quoi la saveur du jour là, ou des années qui viennent?
Mais la saveur du jour, en fait, ce qu'on voit en ce moment, c'est bien entendu là, avec la santé et les enfants, c'est des causes très qui touchent qui vont chercher la sympathie du donateur.
Oui.
Mais on voit avec les grandes tendances en termes d'événements où on met de l'avant tous les défis de soi, le dépassement de soi, où là c'est vraiment l'individu qui va solliciter son entourage.
Ah, oui.
Et là la cause, bien entendu, c'est une cause pour la santé. On va aller chercher plus de participants au défi et plus de donateurs. Mais par contre, est-ce que, et là c'est une question qu'il faut se poser à ce moment-là, est-ce que la cause est réellement reste importante
est
quand
aussi importante.
On est sollicité par un ami.
Oui, voilà. Ben,
donc, peu importe la cause.
Dans le fond, la cause finit par être influencée par la manière de ramasser de l'argent et donc ces espèces de performances, Kilimanjaro et autres, on la cote en ce moment. Écoutez, on va continuer de surveiller ce champ super important qu'est la philanthropie avec vous. On se reparle le mois prochain. Merci beaucoup, Jacinthe Roy.
Merci, Benoît.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Avec nous en studio, Karine Villeneuve, directrice générale de l'AQPTT, l'Association québécoise des personnes de petite taille. Bonjour Karine Villeneuve.
Bonjour Benoît.
En fait, c'est la quatrième édition du mois du nanisme au Québec. Et cette année, vous rappelez que le nanisme, c'est complexe, même qu'il s'agit d'une centaine de maladies. Expliquez-nous un peu tout ça.
Bien, effectivement. C'est que nous, ben, tout d'abord, je voudrais juste souligner, là, pour faire un petit lien avec la chronique précédente, avant de parler du quatrième édition du mois de l'année, nous, à l'association, on fête nos 40 ans cette année.
Félicitations.
Alors, on est un organisme de bienfaisance en passant. on émet des dons, mais je veux dire, c'est aussi dans le cadre de toute cette année, on va souligner au cours de l'année, notre
anniversaire. Ces 40 ans-là.
Exactement.
Donc, ce n'est pas seulement le mois dont on parle, c'est aussi ces 40 ans.
Il y a de ça aussi. Mais par contre, même si ça fait 40 ans qu'on existe, malheureusement, le nanisme est encore très, très méconnu.
Ouais.
Et c'est pour ça que nous, cette année, on a voulu axer le côté médical. En fait, le côté, la vraie chose. Parce que souvent, l'image qui est vraiment, qui nous est souvent accolée, c'est... On est juste petit, on est cute, et pourtant, le nanisme, c'est une condition médicale sérieuse qui va être causée par des centaines, comme on dit, de causes de maladies rares, souvent osseuses, et qui va résulter de ça, de complications et de limitations fonctionnelles plus ou moins sévères, tout dépendant les individus. Et donc, bien sûr, le point commun est un retard de croissance significatif qui va donner une taille en deçà de la moyenne en général.
OK. Donc, voilà la définition simple et claire pour l'ancien mois. Vous savez, un peu plus tard, on discutera avec la protectrice du citoyen. Comment les personnes de petite taille considèrent le système de santé québécois pour répondre à leurs besoins?
Ben écoutez, c'est dur à dire parce que chacun a sa propre
expérience.
Ouais. C'est sûr que, bon, sans tomber dans l'édito, c'est une période un petit peu difficile aussi. Il y a beaucoup de coupures. Veux pas, ça a un impact, surtout sur, pour faire un peu de pouce sur l'intervention de Mme Gauthier un peu plus tôt. Bien sûr, à court en ce moment, il y a beaucoup de coupures, ce qui va impacter surtout les personnes vivant en situation de handicap, dont nous, les personnes ayant le NANIS. Je vous dirais, une des problématiques, c'est que nous, comme on vit des problématiques très rares, très spécialisées, on a des besoins très particuliers. Et malheureusement, si on sort des grands centres spécialisés comme le CHU Saint-Justine ou les hôpitaux pour enfants là, qui sont très, très spécialisés, qui offrent de très grands services, souvent, surtout pour ça, l'adulte va se retrouver un peu à lui-même.
Ouais.
Parce que, vous savez, opérer, mettons, une colonne vertébrale pour une personne qui a entre autres, la chondroplasie, une des formes de nanisme, ça se fait pas n'importe... Tu sais, il y a une configuration de la morphologie que c'est, je veux dire, qui est un peu différente de la majorité des gens.
Okay.
Donc, ça peut causer certains problèmes.
Et donc, vous en parlez dans votre campagne. Est-ce que l'on est mieux servi quand... suivi enfant lorsqu'on est atteint de nanisme?
De nanisme.
Wow!
Mais vous n'êtes pas le seul.
Ça, c'est vraiment le pire lapsus que j'ai fait.
Mais vous savez, pour faire le en fait, des fois, je fais à la blague, vous savez, le nazisme, dans le fond, c'est un peu le nanisme, mais de l'esprit.
Oui! C'est exactement ça. Parce que il faut dire, bon, je ne vais pas du tout faire de tranche d'histoire, mais pour une émission précédente, j'avais ressassé mes notes un peu et on ne parlera pas de ça du tout,
d'accord.
Mais il y avait un sort particulier pour les personnes handicapées, pour les personnes naines aussi, dans un certain régime. Et bon, on va espérer que dans ma tête, c'est ça qui s'est brassé et on ne parle pas de ça aujourd'hui.
Ben, c'est sûr qu'il y a un historique là-dessus, mais bon, on en
parlera une autre fois. Mais donc, vous alliez nous dire à quel point c'est plus difficile pour un adulte atteint de nanisme.
Bien sûr, en ce moment, les soins pédiatriques sont très avancés. D'ailleurs, un peu pour faire le lien, qu'est-ce qui était dit, beaucoup de gens m'ont donné pour la cause des enfants, tout ça. Et en ce moment, les services sont très bien établis pour les enfants, entre autres ayant le nanisme, les familles. Puis Dieu sait qu'un des mythes aussi, nos parents, chez nous, à l'association, sont abonnés aux spécialistes. Ils ont beaucoup de suivi. Les deux, trois premières années, là, on est souvent sollicité. Même un des parents doit peut-être arrêter de travailler, mais il est souvent, justement, dans les suivis médicaux, les rendez-vous, tout ça. En général, ça va quand même assez bien, surtout quand on peut être suivi par des équipes, là, soit à Sainte-Justine ou même à Québec. Là, il y a une très belle équipe aussi. Par contre, c'est un peu qu'est-ce qui arrive, puis je pense que les autres personnes handicapées vont le vivre, c'est la transition, justement, enfant-adulte.
Ouais.
C'est que là, à 18 ans, ben là, il y a beaucoup de choses qui arrêtent, malheureusement, parce que les spécialistes qui ont développé quand même des expertises pour les enfants, là, on ne peut plus les voir un coup passé 20... Des fois,
voilà,
des fois passé, ça va extensionner jusqu'à 21 ans, des fois. Là.
Donc, dans le fond, quand on quitte la pédiatrie, ou à peu près, il faut retrouver un autre spécialiste. Puis cette période-là est difficile?
Bien, ça peut être difficile, parce que là, il n'y a plus de suivi systématique. On est un peu... Si on ne connaît pas beaucoup sa condition, puis ça, c'est un travail aussi qu'on fait à l'association avec nos membres, c'est d'être à l'écoute de son corps, de sa condition. Tu sais, comme j'ai dit, on n'est pas juste petit, on a une maladie osseuse, alors il faut être à l'écoute. Si on n'a plus accès à des spécialistes qui traitent le nanisme, qui sont surtout affiliés dans les hôpitaux pédiatriques, ben ça va être dur un peu de pouvoir avoir accès à des suivis, des soins ou des chirurgies. C'est pour ça que nous, à l'association, on essaie beaucoup de travailler justement avec... Parce qu'il y a quand même une certaine ouverture. Mm-hmm. Il y a des gens qui travaillent, entre autres, à Sainte-Justine,
ouais.
qui vont accepter de voir des adultes ailleurs, là, dans le réseau régulier, les personnes de petite taille, parce que c'est des conditions... C'est, tu sais, quand un médecin, un neurochirurgien, il va développer des compétences d'opérer des enfants qui ont une maladie osseuse, bien, ces compétences-là, c'est
ça se transfère, au
ça
fond.
Se transfère. Ouais. Bien, je veux dire, c'est pas tout le monde qui va... Parce que, justement, il n'en verra pas tant que ça, des personnes. Mais alors, c'est le fun que les adultes puissent aller les voir, ces individus-là. Là.
OK. Mais qu'est-ce que les professionnels de la santé devraient savoir et qu'ils ignorent en ce moment?
C'est sûr,
propos du nanisme.
Bien, c'est sûr que en ce moment, c'est très... Puis c'est normal, hein, je veux dire, comme c'est une condition à la base rare, puis même quand... Je ne sais pas si quand ils sont les professionnels, lors de leurs études, vont aborder ce sujet-là, ou ce n'est pas tous les professionnels de santé qui vont avoir à rencontrer une personne ayant le nanisme au cours de leur carrière. Alors, c'est sûr qu'on ne demande pas de tout connaître, mais c'est sûr que s'ils peuvent savoir comment référer aux bons endroits, souvent, ils vont avoir le réflexe de se tourner vers nous. Mm-hmm. Comme c'est notre expertise, on va les référer à d'autres endroits, d'autres collègues aussi ouais. qui pourraient les aider.
En fait, vous parlez aussi, dans le cadre de vos communications pour ce mois-là, des difficiles complications
oui.
que risque d'avoir une personne atteinte de nanisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage?
Oui. Juste avant de parler des complications, je vais vous faire une image illustrée. Hein, parce que souvent,
allons-y.
je vais partir de ma propre... Je suis moi-même une personne de petite taille, ayant de la chondroplasie. Alors, c'est sûr que, Benoît, quand vous marchez, vous... C'est sûr, moi, je marche, là. Mais quand vous marchez, vous faites un pas, je dois en faire deux, trois pour vous suivre. Alors, imaginez, à la fin de la journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, d'une vie.
Ouais.
Il y a beaucoup de dépenses d'énergie. Quand je dois faire les tâches de la journée, je dois grimper, m'étirer, tout ça. Alors, tous ces gestes au quotidien... à chaque jour, ben ça a un impact quand même sur la condition osseuse. Alors, c'est pour ça que nous, on essaie de dire aux personnes ayant le nanisme, ben de l'importance de faire attention, bien sûr, sans s'empêcher de vivre, là, c'est pas d'arrêter de vivre,
ouais.
mais d'essayer d'adapter le plus possible qu'est-ce qu'on peut. Bien sûr, on peut pas tout adapter, mais pour justement travailler en prévention, pour ne pas arriver plus tard et avoir des impacts négatifs, pour pouvoir éviter des opérations le plus tard possible ou ouais. des problèmes de mobilité. Et quand je parle d'opérations, ben ça peut être très vaste, tout dépendant des maladies osseuses, parce que le nanisme, bon, j'ai parlé de la chondroplasie, ça peut être aussi des maladies évolutives comme le syndrome de Morquio, l'ostéogenèse imparfaite, des maladies qui vont affecter les os. Souvent, ces gens-là vont devoir avoir des opérations, des chirurgies régulières,
ouais.
des remplacements de hanches, des redressements de jambes, des opérations de décompression de la moelle épinière.
Et à chaque fois, d'ailleurs, ça prend aussi des équipements qui conviennent,
qui
s'adaptent, ce qui n'est pas toujours le cas.
Bien, c'est sûr, il faut développer, faire des chaises adaptées, comme on dit. Mm-hmm. Les voitures, bien là, on adapte la voiture, la maison, l'école, le travail.
On comprend bien votre cause. Merci de nous le rappeler année après année, maintenant depuis 4 ans. Mais peut-être que vous pourriez nous mentionner brièvement quelques activités, peut-être 2, 3, qu'on va retrouver ou qui vont être présentées dans le cadre de ce mois du nanisme.
Bien, nous, le mois du nanisme, c'est surtout un travail de sensibilisation.
Bien.
Alors, nous, on essaie de faire parler du nanisme, tant dans les médias sociaux. On a une campagne... qui est un peu sur le thème des maladies osseuses. Là, en ce moment, à chaque jour, on en présente une sur notre page Facebook.
Okay.
Alors, les gens qui sont intéressés peuvent aller sur notre page Facebook, nous suivre.
AQPPT.
Enfin, c'est facebook.com/AQPPT.
Parfait. Donc, on va voir ça. Tous les jours, on est informé
oui,
sur...
des témoignages, des articles. Et cet automne, c'est sûr qu'on va faire des activités sociales avec nos membres. Il y aura aussi le 25 octobre, la Journée internationale du nanisme, le lancement de capsules vidéo. C'est un de nos projets qu'on travaille, en train de finir là, avec un réalisateur pour justement un outil de faire parler de notre condition. Et là, parce que c'est le thème de la condition médicale, nous avons eu le financement en septembre 2017. Nous voulons organiser un colloque.
Ah oui, sur le nanisme en tant que tel.
Okay. Ça fait déjà depuis 2002 qu'il y avait eu un colloque sur le sujet. Alors, on veut réunir des spécialistes, des professionnels de la santé. On veut...
Et des personnes, j'imagine.
Oui,
aussi.
Les individus.
Ouais.
Pour les réunir, pour essayer de trouver des pistes de solutions sur les problèmes, trouver des solutions, parler un peu où en est la recherche. Alors, justement, on veut vraiment donner l'accent là-dessus.
Et donc, pour retrouver toute l'information, non seulement sur le mois du nanisme au Québec, mais aussi sur les autres activités de l'OQPTT, on peut se rendre sur aqppt.org.
Oui.
Et aussi votre page Facebook, oui. Repérable par AQPPT aussi.
Oui.
Karine Villeneuve, directrice générale de l'OQPTT, merci beaucoup.
Bien, je vous remercie, Benoît.
L'allure, tu prends la mesure, tu tournes les coins ronds, tu passes droit, ralentis l'usure, à quoi tu carbures.
Fleurs, c'est le duo Saratoga qui nous offre ça et ça nous permet de repartir avec cette entrevue très importante. En fait, nous l'apercevons comme déterminée, mesurée dans ses recommandations. Je parle bien sûr de la protectrice du citoyen, Mme Raymonde Saint-Germain, qui a marqué sa fonction et qui termine sa dernière année de mandat. Alors, bonjour Mme Saint-Germain.
Bonjour Monsieur Rassette.
Merci de nous faire l'honneur de votre passage au Canalem.
Ça me fait plaisir.
Revenons d'abord dans le champ de l'actualité, parce que beaucoup de groupes vous ont paraphrasé après le dépôt de votre rapport le 29 septembre dernier. Rappelez-nous votre recommandation centrale face aux mesures d'austérité en santé et services sociaux.
En fait, j'ai deux recommandations centrales. La première, c'est de dire, le mot austérité, je ne l'utilise pas vraiment, mais je dis... Dans un contexte où il y a des restrictions budgétaires importantes qui sont cumulées d'une année à l'autre depuis au moins 10 ans, il est important de mesurer l'impact des compressions que l'on fait sur le service aux citoyens parce que nous avons constaté des décisions qui ont été préjudiciables au bien-être de certains citoyens. La deuxième recommandation, c'est il faut s'assurer que la bureaucratie Par bureaucratie, j'entends des procédures excessives, du travail en vase clos, un peu trop de, passez-moi l'anglicisme, de corporatisme, que la bureaucratie est davantage allégée avant de réduire le service direct à la population.
Et ça vaudrait peut-être la peine même d'insister, quand vous parlez de bureaucratie et de procédures, c'est qu'il y a eu un grand travail dans les deux dernières années, j'oserais dire, et même avant, de normage. C'est un néologisme étrange, mais on a tenté de normer les différents actes, notamment médicaux, et vous trouvez que ça dessert la population au final?
Bien, ce qui effectivement dessert la population, c'est que on établit des critères en fonction d'une disponibilité budgétaire, mais sans tenir compte du critère ou du diagnostic professionnel qui fait en sorte, par exemple, si on prend le soutien à domicile, en raison de critères administratifs qui ont eu préséance sur les critères médicaux ou les critères psychosociaux, des gens qui avaient 33 heures de besoin bien évalués ont eu 12 heures de service. Et ça a compromis leur maintien à domicile avec toutes les conséquences que ça peut vouloir dire. Des gens qui s'en vont à ce moment-là en CHSLD, ce qui coûte plus cher à l'État. Des gens qui sont en situation de souffrance, qui vont se priver de services, mais au détriment de leur bien-être. Alors, il faut qu'on ramène l'évaluation des besoins et les critères professionnels comme étant le premier déterminant et qu'on fasse tous les efforts pour couper ailleurs que dans les services.
Et donc, vous faites la démonstration, en fond, même que des choix qui ont été faits, vous parlez entre autres de compromettre le soutien à domicile de quelqu'un et donc de le placer en CHSLD. En fait, on n'a pas pensé que ça coûte 80 000 $ puis vous rappelez dans votre rapport que pour 80 000 $ on pourra avoir 96 heures par semaine de soutien à domicile.
C'est ça, les décisions sont souvent prises en silo et effectivement, et non seulement on aurait toutes ces heures-là, mais en plus, ça répond, ça respecte le choix des citoyens qui, dans la mesure où ils le peuvent et avec le support nécessaire, préfèrent demeurer chez eux. Le domaine, je parlais des services sociaux, il y a des situations aussi où je pense aux jeunes enfants autistes, ou en déficience intellectuelle, certains qui ont des besoins d'accompagnement, que ce soit des psychothérapies, des services d'orthophonie, de réadaptation au sens large. Les listes d'attente sont très longues. Les besoins identifiés, on n'est pas en mesure de les satisfaire en temps opportun, si bien que des enfants, on a parlé précisément d'un dossier qui, moi, me touche beaucoup, c'est un jeune enfant de 3 ans, sa mère l'inscrit tout de suite pour l'orthophonie avant l'entrée à l'école dans 2 ans.
Oui, dans une optique de prévention.
Prévention, lui donner le plus de chances possible. Un an plus tard, on lui dit, ça va prendre encore 2 ans. Et le jeune enfant, donc, entre à l'école sans avoir eu de service en orthophonie. Et déjà, il y a moins de chances que d'autres en partant. Alors, je pense qu'il faut revoir cette approche, justement, trop administrative, trop bureaucratique, faire les bonnes compressions au bon endroit et mesurer davantage les impacts et prioriser les clientèles vulnérables. Ce que je dis, au fond, c'est que l'administration en a moins souffert de ces compressions cumulées que les personnes vulnérables qui sont très dépendantes et beaucoup plus que d'autres de ces services publics-là.
Mais donc, vous-même, vous le dites, ce sont ces personnes vulnérables qui ont le plus souffert des coupes et des réorganisations en santé.
Oui,
c'est
absolument.
Précisément eux. On parle des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap, bien sûr, mais vous parlez aussi de la population carcérale, parce que c'est dans votre mandat aussi.
Oui.
Et d'autres groupes aussi, les personnes âgées auraient eu de la difficulté aussi.
Les personnes âgées, c'est souvent justement au niveau des services d'hébergement. Évidemment, je fais toujours attention de ne pas infantiliser toutes les personnes âgées et même aucune. Certaines ont des besoins, d'autres sont en pleine forme, mais celles qui ont des besoins, effectivement, les délais sont longs. On retrouve en ressources intermédiaires des personnes qui ont besoin de services plus important, plus spécialisé que ce que peuvent offrir les ressources intermédiaires, mais il n'y a pas de place pour elles en CHSLD. Alors, il y a toutes sortes d'effets dominos qui sont quand même très importants. Vous parliez tout à l'heure du secteur carcéral.
Oui.
Effectivement, puis c'est toujours un sujet que je tiens toujours à dire. C'est important de ne pas négliger la bonne prise en charge des besoins des personnes qui sont détenues. Certaines ont des besoins d'accompagnement en santé mentale, d'accompagnement psychologique. Et il y a là des enjeux autant de sécurité pour elles-mêmes et pour la société.
Pour le public aussi.
C'est ça, et de bien-être. Et c'est le moment où elles sont en détention, justement, de faire les plans d'intervention, de commencer les enjeux en toxicomanie notamment. Et malheureusement, on voit que les services de santé en milieu carcéral, c'est vraiment insuffisant, particulièrement en santé mentale. Il y a aussi des bonnes nouvelles dans mon rapport. Il reste qu'il y a maintenant 9 centres de détention du Québec sur 20 qui commencent à avoir une couverture plus adaptée des services de santé requis au moment opportun. C'est un début. Je veux aussi reconnaître, et je le fais dans le rapport, vous parliez tout à l'heure de l'importance de la nuance et de la mesure, qu'il y a eu quand même des avancées. On parlait de personnes vulnérables, ça peut être aussi un entrepreneur, on n'est plus du tout en santé, pour lequel Revenu Québec peut soupçonner qu'il fraude l'impôt. C'est important, hein, de la lutte à l'évasion fiscale. C'est comme ça qu'on finance avec les impôts nos services publics. Mais dans certaines situations, il y a eu des abus de la part de Revenu Québec qui envoyait des avis de cotisation qui sont à payer maintenant sur la base de présomptions qui n'étaient pas suffisamment prouvées et dans certains cas qui n'étaient pas exactes. Et dans les bonnes nouvelles, c'est que mon rapport de l'an dernier avait vraiment interpellé le ministre des Finances qui a demandé à Revenu Québec... un plan d'action, un changement de culture, et on voit que ça, sur le terrain, ça se réalise. Alors, il y a quand même des avancées, mais une personne vulnérable, ça peut être aussi une entreprise pour laquelle on va la traiter d'une manière à peut-être mettre en péril sa capacité de demeurer en affaires. C'est aussi ça. Hein.
Donc, vous parlez des petites entreprises, entre autres.
Oui, petites et même des moyennes entreprises. Alors, la justice administrative, c'est important qu'elle soit présente partout dans tous les services publics.
Bien, j'apprécie votre panorama. Si vous me permettez, je vais revenir au soutien à domicile.
Oui.
Vous savez que c'est déterminant pour les gens qui nous écoutent. Et il faut quand même constater que ça fait 2 rapports que vous insistez particulièrement sur cette question-là. Il y a même un cas spécifique que j'aimerais vous rappeler, M. Michel G. Pigeon, à qui on a coupé 11h45 par semaine en début d'année. Et rappelons que M. Pigeon a une déficience physique sévère, travaille tous les jours. Votre service a transmis le 19 août dernier à l'établissement concerné aux citoyens la recommandation qui disait la chose suivante, réallouer immédiatement à l'usager toutes les heures de soutien à domicile. Et le gouvernement n'a toujours pas réagi. Est-ce que c'est normal, d'après vous?
Bon, je tiens à faire, M. Rassette, un commentaire très important.
Oui.
Les citoyens qui s'adressent à nous le font avec la certitude qu'on va garantir la confidentialité du traitement de leur dossier. Et nous, jamais, on ne rend public les situations. Dans le cas du citoyen dont vous parlez...
Oui, c'est lui-même qui l'a déclaré.
Bon,
voilà.
Rendu public. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on a pu obtenir plus d'heures pour M. Pigeon. Il y a encore des pourparlers avec l'instance, mais sa situation qui est particulièrement exceptionnelle, et il faut reconnaître que c'est une personne qui fait tout en son possible pour demeurer très actif. Il a un lourd handicap et il occupe un emploi à plein temps avec des besoins spéciaux. Donc,
mais il y a de plus en plus de gens comme ça aussi, parce que l'inclusion scolaire a quand même fait son œuvre. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, puis le soutien à domicile, c'est intimement relié à leur participation sociale.
Absolument, et c'est un des objectifs. Et M. Pigeon est un citoyen qui contribue aussi par ses impôts et les taxes qu'il paie à financer les services publics. Donc, je peux vous dire que le dossier a évolué positivement. Il y a encore des pourparlers sur certaines dimensions, mais il y a des gains qui ont pu être faits justement sur la base d'une situation qui est adaptée aux besoins de M. Pigeon. Et ça, c'est un des messages que je veux livrer. Il faut s'assurer, les services publics sont généralement très efficaces quand il s'agit de traiter à grande échelle des citoyens qui entrent dans la norme. Pensons à la SAC, l'émission des permis de conduire, l'état civil. Bon, tout ça, ça va bien. Le citoyen, il entre dans ce qui
dans
convient à l'administration.
Cases.
Dans les bonnes cases.
Mais brièvement, votre message final?
Mon message final, c'est il faut adapter le service davantage aux besoins des personnes qui s'écartent de la norme, qui n'entrent pas dans la case de l'administration.
Mm-hmm.
Et je pense qu'il y a une bonne volonté, mais il y a encore des efforts importants à faire dans ce sens-là.
Écoutez, brièvement, encore une fois, avant de vous quitter, vous êtes indispensable pour les médias, les groupes de défense de droits qui ont souvent utilisé vos rapports, les citoyens et les citoyennes. C'est votre dernier mandat. Est-ce que vous avez une idée où vous irez après? Parce que vous savez qu'on a bien hâte de vous retrouver.
Je ne le sais pas. Écoutez, je suis encore à plein temps protectrice et je le serai jusqu'à la dernière heure, j'en assure les citoyens. Après, ce que j'espère, c'est travailler vraiment encore au niveau de la, démocratie de l'intérêt public. Alors, je verrai, mais pour l'instant, je suis en mode protectrice du citoyen. Mais,
et très bien d'ailleurs. Madame Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir, M. Rasset. Au revoir.
Au revoir. Je tiens aussi à remercier tous les invités qui ont témoigné de la santé dans tous ces états. Donc, il y a Lucie Guerrero, Linda Gauthier, Jacinthe Roy, notre chroniqueuse philanthropie, Karine Villeneuve pour le mois d'unanisme. Pour écouter l'émission ou pour les coordonnées de nos invités et de leur organisation, rendez-vous sur le site Canal M. Je tiens aussi à souligner le travail de l'équipe. Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien, La Liberté, la mise en onde, Christiane Campagna aux communications. Je vous permets même, un petit détail sur la semaine prochaine. Entre autres, on va parler de la campagne nationale pour l'employabilité des personnes aveugles. Très important. Il y aura aussi notre directrice générale qui va parler du traité de Marrakech. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à en tirer sur le droit international. Et donc, c'est Benoît Rasset qui est avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Et on va finir par faire ensemble un véritable accès libre.